RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos, putain. Non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se taferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, sur RMC à la radio, sur RMC Sport News, à la télé, dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là, Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Jérôme Bretagne est là, Jérôme, bonsoir.
Salut à tous.
Gros programme ce soir, messieurs, mais le double événement, c'est Villas-Boas qui arrive à Marseille, ça a été officialisé aujourd'hui bien sûr, et puis les Inio présentés à Lyon, Juninho et Silvinho, excellente conférence de presse, hein. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, Juninho toujours aussi brillant, clair, on l'entendra tout à l'heure. Du coup, au programme ce soir, tout ce que vous ne saviez pas sur Dédé Villas-Boas, tout ça grâce à qui? Grâce à Pierre Rondeau qui est avec nous.
Bonsoir.
Ah oui,
bonsoir,
parce que le gars est non seulement.
Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est une très longue histoire. Oh,
tu vas nous raconter.
Plus tard.
En fait, je finis mon sommaire.
Ah, il ressemble un peu à Villas-Boas.
Il y a un air.
Merci pour ça. C'est pour ça que je suis son frère.
Un peu.
Ouais.
Bah si.
Pourquoi pas.
Je trouve, il y a un truc.
On parlera donc des envies de Juninho et de Silvinho à Lyon et de cette conférence de presse très intéressante. Franck Ribéry, prêt à revenir en France. Est-ce qu'il serait une bonne affaire pour un club de Ligue 1? Il était dans le team du gars tout à l'heure. Il l'a dit. On en débattra ensemble. Et comme promis, une spéciale Nantes tout à l'heure après 23h avec là aussi plein d'infos. David Felippo sera avec nous. Il sait tout du club. Alors logo refait, Mercato, Vaïd, Kita. Enfin bon, la totale. Hein, voilà, supporter.
Ah. Raymond, surtout.
On vous attend au 32-16. Et bien sûr,
ça, ce serait...
cerise sur le gâteau, Raymond Domenech. Là, c'est...
Là, j'avoue que j'adorerais voir ça.
Et puis des directs, messieurs, ce soir, notamment à Barrage. Barrage d'accession ou de maintien en Ligue 2. Le Mans, dans son magnifique stade vide depuis plusieurs années, mais plein ce soir, reçoit le Gazélec d'Ajaccio. Gilles Ouattat, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tout le monde. Très très plein d'ailleurs, un guichet fermé comme on disait à l'époque. 25 000 personnes.
Oui, on le dit toujours, c'est vrai.
25 000 personnes pour soutenir les Manceaux. Et 2-1 pour le Gazélec d'Ajaccio face au Mans. Naïveté peut-être des joueurs du Mans qui ont vraiment été très offensifs depuis le début de cette partie et qui ont pris deux buts en contre. Ils ont réussi à réduire l'écart il y a quelques instants grâce à Rémy Boissier. Ça fait 2-1 à une demi-heure de la fin du match. Je rappelle qu'il y aura un match retour, ce sera dimanche.
Bien parti quand même pour le Gazélec. Hein,
bien parti pour le Gazélec Ajaccio. Ouais.
Évidemment. Et puis on a du basket, quart de finale du championnat Nanterre-Pau. Et c'est qui? C'est Jordan Olivier. Jordan, bonsoir.
Bonsoir à tous. C'est parti depuis 1:10 dans le quatrième et dernier quart-temps. Et pour le moment, ce sont les Palois qui mènent 59-58 dans cette belle donc de ces quarts de finale. L'équipe qui remportera ce match accédera donc aux demi-finales. Ce sera face à l'Asvel dimanche, mais ce n'est pas encore fini. Il reste 8 minutes dans le dernier carton. 59-58 pour Pau.
32-16, on vous attend. On vous attend sur le hashtag RMC Live. On vous attend sur Direct Studio, bien sûr, toute la soirée. Tout à l'heure, je vous reparlerai du match de l'After. Et puis, on accueillera également tout à l'heure, en fin d'After, Jérémy, un auditeur fidèle de l'After qui nous a écrit une lettre très intéressante. Tellement intéressante qu'on l'a fait venir ce soir. Et vous allez voir, Jérôme et Daniel, ils parlent de vous. Ce sera tout à l'heure. Pierre.
Oui.
Je te signale qu'on aura avec nous également William Gallas tout à l'heure, hein, qui a eu Villas-Boas comme coach à Tottenham, donc il nous dira ce qu'il en pense. Comment es-tu devenu un spécialiste de Villas-Boas? D'habitude tu viens nous parler de droit de télé, d'économie du foot.
Oui. Non mais justement c'est une longue histoire, j'ai pas m'étaler sur ma situation. On va surtout parler de Villas-Boas, mais en fait ça remonte à 2 ans. Il y a 2 ans j'avais arrêté mon travail, c'était à la fin des présidentielles et j'avais travaillé pour un candidat de gauche. Et c'était la fin des présidentielles, je m'étais retrouvé un peu avec beaucoup de temps libre.
Mm-hmm. Et d'ailleurs, il vient de se retirer lui aussi.
Voilà.
C'est qui?
C'était Hamon, non?
C'était Benoît Hamon, ouais. Et avec mon temps libre, je me suis intéressé à la vie d'Andrés Villas-Boas parce que il a une vie très intéressante.
Et pourquoi Villas-Boas?
Parce qu'il est l'un, si ce n'est le seul, pour moi, grand entraîneur qui n'ait jamais été footballeur professionnel, qui n'a jamais eu une carrière de grand sportif.
Ouais.
C'est pas tout, c'est si eux, c'est moi, il m'a intéressé parce qu'il vient, on va y revenir, mais il vient d'un milieu très bourgeois au Portugal.
Même aristocrate.
Aristocrate. Ouais. Il est arrière petit-fils de vicomte et arrière petit-fils de baron.
Le vicomte Villas-Boas.
Donc il est quoi, lui, du coup?
Vicomte, il est pas vicomte.
Alors son arrière-grand-père est vicomte. Je ne pense pas qu'il ait hérité du titre, mais en tout cas, il vient d'une famille bourgeoise aristocratique.
Vicomte, j'aime bien.
Il a. J'ai Dédé Villas-Boas. Je dis quand tu dis vicomte,
vicomte. Dédé, vicomte et arrière-grand-père baron, baron et vicomte, s'il te plaît.
Baron, c'est en dessous de comte et vicomte. Le vicomte, on va l'appeler le vicomte.
On va l'appeler le vicomte de Marseille, voilà.
En plus, je trouve que même si c'est en dessous, je trouve que c'est plus classe vicomte que comte.
Ouais, vicomte.
Mais moi j'aime bien baron, même si c'est inférieur, c'est bien baron. Le baron de Marseille, ça fait un peu.
Ah, baron.
Ouais, bref, en tout cas aristocrate, donc issu d'une très grande famille bourgeoise aristocratique de Porto, qui a fréquenté tous les plus grands établissements scolaires les plus prestigieux de la ville, qui était à, pour ceux qui connaissent à Porto, qui était au Sacré-Cœur, hein, institut catholique très prestigieux. C'est un peu l'équivalent à Paris de Stanislas. Donc c'est un vraiment famille très bourgeoise, qui n'a jamais été bon au football, mais qui était passionné et grand supporter de Porto, du FC Porto, et qui a finalement découvert la passion du management et du coaching en jouant aux jeux vidéo. Il était un passionné de football manager. Enfin, à l'époque, de championship manager.
Je vais reformuler ce que tu nous as dit. En gros, un gars né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui s'est dit, moi, je veux me faire plaisir dans la vie, je veux être coach de football.
Alors, pas vraiment. Là, c'est caricatural. C'est surtout en quelqu'un qui, venant d'un milieu social très aisé, et adorait le football, mais n'avait pas le talent pour pratiquer le football. Ouais. Donc plutôt que de se concentrer sur la pratique sportive, pour donner un exemple, quand il joue au foot avec ses amis, comme c'était le plus mauvais, il allait dans les cages. Ouais. Et comme il allait dans les cages,
Daniel a toujours été.
Voilà, il allait dans les cages, donc il s'est pris de passion pour le coaching.
J'ai jamais été bas sur le terrain. Ouais. J'étais toujours très haut.
En général, c'est gardien ou latéral.
Ouais.
C'est souvent le dernier qui touche la.
Ouais, si t'es 10 ou 8, il fallait vraiment que le 10 soit fort pour que je redescende d'un coup. Bah, c'est la vérité, je m'invente rien du tout.
Il a à 12 ans, donc voilà, donc mauvais en football, mais il s'est pris de passion pour le coaching et le management. Il découvre donc une passion dans le jeu vidéo, dans le Championship Manager en France, c'est le jeu vidéo L'Entraîneur, qui sort en 92. Donc à l'âge de 15 ans, il découvre ce jeu, il se prend de passion, il joue de grandes heures à ce jeu vidéo. En 94, Sir Bobby Robson signe au FC Porto comme coach du club et il s'installe dans le même immeuble qu'Andrés Villas-Boas.
Ouais. Robson qui a également été proche de Mourinho
à
l'époque.
C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Mourinho à l'époque, était le traducteur à Porto de Robson.
Priori, c'était pas les HLM de Porto.
Avenue Boavista dans les quartiers les plus huppés de Porto, donc c'était c'était encore une fois, je répète, la grande bourgeoisie Portugal.
Il fait partie de la catégorie et des entraîneurs intellectuels.
Bien qu'il n'ait jamais, alors ça c'est un détail aussi important, il n'a jamais fait d'université portugaise. Il a passé tous ses diplômes en Angleterre, donc je reprends, donc à 15 ans il rencontre Bobby Robson, à 17 ans pardon, Bobby Robson.
Ah oui, mais je crois, c'est pas, il fait tout pour le rencontrer, oui, genre il l'attend en bas et tout.
Il toque à sa porte pour lui dire, en gros, voilà, je vais donner des conseils, moi je l'ai vu en jouant aux jeux vidéo, tu devrais jouer comme ça, tu devrais jouer avec tel attaquant.
Genre le petit merdeux qui vient frapper à sa porte, je vais t'expliquer
comme un fan de l'After qui vous écrit un mail pour vous dire, faites ça, dites ça.
C'est genre Mohamed Bouaf à 15 ans qui vient nous voir et qui est devenu une resta, quoi.
Exactement. Donc Robson, il le prend.
À qui on a ouvert les bras.
Elle est pas mal, un peu, pour la comparaison, non ?
Mais qui a mérité sa place, hein. L'important, mérité, c'est de mériter
exactement,
ensuite.
Il a mérité, Momo. Hein.
Et donc, il se prend de... Il crée une amitié, je dirais, avec son voisin Sir Bobby Robson, qui l'invite au centre d'entraînement de Porto pour lui faire découvrir finalement les infrastructures, qui lui demande justement, parce qu'il tient à profiter de ses talents d'expert du football, de la stratégie sportive, et il lui demande régulièrement des rapports sur les adversaires, tout ça à l'âge de 17 ans. À 17 ans, donc, il découvre le centre d'entraînement de Porto, il rencontre Mourinho, qui à l'époque était le traducteur de Robson à Porto, et donc, très tôt, voilà, dès l'âge de 17 ans, il intègre la sphère footballistique et il touche le coaching et le management footballistique. Sans avoir été jamais joueur de football, sans jamais avoir passé un diplôme ou une formation. Ouais. Il a eu, tu l'as dit, la chance de naître dans une bonne famille. Il a eu la chance de naître dans une famille.
Dans le bon immeuble.
Exactement. qui lui a permis de rencontrer Sir Bobby Robson, qu'il considère maintenant comme son mentor. Lui, souvent, il se réfère à lui, hein, souvent, on compare à Mourinho ou à Bielsa. Non, lui, il dit, non, moi, mon modèle, c'est Sir Bobby Robson. Et, à 18 ans après le bac, il s'inscrit en fac de lettres, mais il y va pas. Et il part en Angleterre, à Leeds Hall, pour passer ses diplômes d'entraîneur. Donc il les passe à la fois en Angleterre et en Écosse. Il passera sa licence entre 18 ans et 21 ans. Il passera les licences C, B et A UEFA à la Fédération écossaise de football. Donc à 21 ans, il peut diriger une équipe professionnelle.
Et pourquoi là-bas? Pourquoi il va?
C'est Sir Bobby Robson qui l'a pistonné pour qu'il intègre. Enfin, qui l'a pistonné. D'accord. Il lui a écrit une lettre de recommandation pour qu'il intègre l'académie. Enfin,
au-delà des, on va dire des circonstances de la vie, le gars est brillant, quoi.
C'est ce que tout le monde a dit qu'il est. Donc à Ipswich, quand il a fait son stage d'observation pour devenir entraîneur, à Leith Hall dans le centre de formation pour passer ses diplômes d'entraîneur, et à la Fédération écossaise de football, tout le monde a dit que c'était un élève brillant, le plus jeune de tous les étudiants, brillant, capable d'avoir une capacité d'attention, une capacité de prise de connaissances, et un passionné à la fois de sociologie, de psychologie, d'analyse stratégique, managériale. C'est quelqu'un qui était un passionné et effectivement un intellectuel. Là où je nuancerais le côté intellectuel, c'est qu'il n'a pas de diplôme universitaire. C'est pas un Jardim, c'est pas un Mourinho qui eux ont passé des diplômes universitaires. Lui, dès l'âge de 18 ans, il a passé ses licences de coach pour être entraîneur. Et donc à 21 ans, il devient il passe sa licence A pour entraîner une équipe professionnelle et commence à postuler à droite à gauche pour essayer de prendre un club. À l'époque, on lui avait redonné la direction des U15 à Porto. Et lui, il voulait entraîner une équipe professionnelle adulte, une équipe A. Donc il, à chaque fois on lui dit non parce qu'il est trop jeune. Alors il lit un jour en décembre 99, il découvre une annonce dans une revue managériale, les îles Vierges britanniques, 205e nation FIFA, une île grande comme Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan, 28 000 habitants, cherche un directeur du football. Donc il envoie son CV, mais il met pas de date de naissance. Il met pas sa date de naissance, il envoie son CV et avec une lettre de recommandation de Sir Bobby Robson. Et il est pris. Il est engagé à 21 ans.
Ah
il devient.
La lettre de Bobby Robson, ça passe.
C'est la nuit. Les gars, c'est Bobby Robson.
Mais moi, je peux peut-être faire la même chose pour.
Avec une lettre de recommandation de toi.
Pour aller.
Pour entraîner les îles Caïmans,
les Grenadines.
Si tu me fais ça.
T'as même pas besoin de moi.
Sinon, quel type qui a été entraîneur, je peux demander?
Roland.
Roland,
pas en ce moment, quoi.
Je sais pas s'il est connu, Saint-Vincent-les-Grenadines, Roland.
Non, l'actualité de Roland va te desservir, là. Faut attendre un peu.
Bon, alors donc, il va aux îles Vierges.
Il arrive aux îles Vierges. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sa barbe rousse, qu'on connaît tous maintenant, elle vient de là. À 22 ans, quand il passe l'entretien d'embauche, il avait pas dit qu'il avait 22 ans, il avait pas mis sa date de naissance, il voulait se vieillir, il s'est fait pousser la barbe.
En fait, c'est comme Villas. En fait, il a 21 ans.
Waouh! En fait, il a 18 ans.
Pourquoi il y a deux L à son nom? Villas, c'est pas toujours avec un L?
Ah là, c'est deux L. J'ai pas fait l'étymologie. Okay. Peut-être parce que c'est le vicomte.
Et donc, il va là-bas.
Alors, il perd tous ses matchs, donc en CONCACAF.
Oui, avec les îles Vierges.
Les îles Vierges. Alors, ce qui est très intéressant, par contre, c'est que en gros, il y a 4 tours de qualification pour la Coupe du Monde 2002, à l'époque. Donc, il est en 2001-2002. Et il doit jouer le premier tour contre les Bermudes. Les Bermudes, à l'époque, à tous les matchs, îles Vierges, Britanniques, Bermudes, à chaque fois, ils perdaient de 20 buts d'écart. À chaque fois, les Bermudes éclataient les îles Vierges britanniques.
Les Bermudes peuvent 20 buts d'écart aux îles Vierges.
La 205e nation FIFA sur 211. 205e nation FIFA. Et l'exploit de Villas-Boas.
C'était combien, là, notre ami, là, qui est venu la semaine dernière, là?
Djibouti. Il était 150e, lui.
Non.
On parle des îles Vierges britanniques, hein. Comme Belle-Île-en-Mer.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, il était pas loin, quoi.
Ah, putain, donc ça veut dire, Djibouti, ils mettent une danse aux îles Vierges.
Mais attends, une fois qu'il arrive aux îles Vierges britanniques, lui, il apporte ses connaissances, ses compétences tactiques et managériales. Et plutôt que de perdre les matchs 20-0, le premier match, il le perd 5-1. Ce qui est une belle évolution.
Ouais.
Et le deuxième match contre les Bermudes, en match aller-retour, il le perd 9-0. On est loin du 20-0.
D'accord.
Alors ça reste un peu.
T'imagines, t'as perdu 9-0.
Ah, ouais, c'est fou.
Oh, la belle perte.
Tu sais que là, t'es en train de faire rêver les supporters de l'OM, quand même.
Non, mais j'en précise tout ça. 21 ans. À 20 ans. Après, on pourra dire qu'ensuite, il revient à Porto, il passe entraîneur adjoint des U20. Il reste 18 mois aux îles Vierges britanniques.
Ah, quand même.
Il revient à Porto, il devient entraîneur adjoint des U20, au sein du club. Un an plus tard, Mourinho revient à Porto en tant qu'entraîneur principal. Il le croise dans les couloirs. Et il fait, tiens, qu'est-ce que tu fais là? On s'est pas vu depuis longtemps. Moi, je t'ai vu quand t'avais 17 ans. Je te revois à 22 ans. T'es toujours entraîneur. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas étudiant? T'es pas parti? T'es toujours là? Ils étaient potes, donc ils se retrouvent. Et ils le nomment superviseur des adversaires. donc à 24 ans. À 24 ans,
il se remet à faire des Bristol.
Exactement, des grands dossiers d'analyse des coachs, enfin des équipes adverses, des clubs adverses, tout ça pour Mourinho.
Il a analysé le Monaco de Jérôme Rotten.
Et en gros, oui,
Porto.
Exactement, ouais. Oui. On appelait à
les brillants celui-là en fait.
Allez, t'imagines si on retrouve les Bristol de Villas-Boas de
sur le cas de Jérôme Rotten.
Oui, mais couper la liaison Zico-Rotten.
On va s'amuser là.
Il appelait en gros les yeux de Mourinho. Et au sein de l'effectif, au sein du staff à l'époque de Porto avec Mourinho, on l'appelait les yeux de Mourinho et certains l'appelaient aussi l'encyclopédie parce que c'était vraiment une bible. Là, si vraiment je veux rassurer les fans de Marseille, beaucoup de gens le considèrent comme une véritable encyclopédie du football. Pas que je reprends le cas intellectuel. Il va dire que lui, en gros, dès 1992, il a toujours joué à Football Manager. Il connaît quasiment tous les joueurs. Et comme après, il a dû superviser toutes les équipes, tous les adversaires,
après, on connaît
tous les
parcours.
Joueurs adverses.
Après, voilà. On connaît le parcours un peu plus classique. Enfin, ce parcours qu'on connaît, quoi. Les clubs anglais.
Et après, donc voilà, Porto.
Comment il le nomme numéro un, Porto?
Il passe d'abord par l'Académia. Il fait un an entraîneur principal dans un autre club portugais. Il réussit à...
L'Académica de Coimbra.
Exactement.
Ville universitaire, d'ailleurs, Portugal.
Il réussit, alors de mémoire, il termine cinquième du championnat. Il est ensuite repris à Porto parce qu'il connaissait la maison, il connaissait tous les dirigeants. En deux ans, il remporte le championnat, la coupe du Portugal et l'Europa League. Il devient le plus jeune entraîneur d'Europe, champion d'Europe.
L'Europa League, c'est en 2011.
Oui. En 2011, ouais.
Il a une super équipe, là.
Oui.
Il a des super joueurs. C'est quoi? C'est Falcao, James Rodriguez tout jeune, Hulk.
Alors, il y a un élément que je tiens à préciser par rapport à toute l'histoire de Villas-Boas que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup étudié. C'était un projet initial il y a deux ans. Et comme on m'avait stoppé parce qu'il jouait, il évoluait en Chine à l'époque, j'avais arrêté le projet. Donc moi, j'ai arrêté sa vie et ses péripéties à Porto. Après tout ce qui concerne Chelsea, Tottenham, le Zénith et Shanghai, j'ai lâché.
Est-ce que tu peux nous parler de son style de jeu? Quel est son modèle préférentiel? De Silvinho, il est arrivé à Lyon, il dit moi je veux du 4-3-3. C'est ce qu'il a dit cet après-midi. Il a dit 4-3-3, je veux des joueurs pour un 4-3-3, donc je veux un nouveau
style. Il a toujours dit de façon lui, Mourinho, Villas-Boas, quand lui demande justement ce qu'il veut, lui il dit il veut gagner mais avec casse. Il veut jouer à l'offensive.
Ouais, quoi.
Il
veut beaucoup d'entraîneurs.
Ça va être vraiment assez superficiel comme discours, mais effectivement, lui, ce qu'il veut, c'est jouer de manière offensive, gagner quel que soit le match.
Il n'est pas vraiment comme Mourinho dans le
Mais justement, il le dit. Pour lui, c'est pas son modèle.
Au cours de sa carrière, notamment à Tottenham, à un moment, il est peut-être devenu, il a un peu oublié les idées pour être un peu plus pragmatique. D'ailleurs, ça lui a pas franchement réussi de laisser de côté ses idées, quoi. Mais il est pas complètement comme Mourinho, quand même. D'ailleurs, d'un point de vue de la personnalité, ils sont
pas
complètement différents.
Pas du tout.
Il y en a un qui s'impose. Alors, justement, c'est ça que j'allais te poser comme question.
Différent par rapport à quoi.
Mourinho, c'est un mec qui s'impose, qui, d'un point de vue du caractère, est fort, peut aller au contact avec toi, se mettre face à toi, te dire. Villas-Boas, et c'est ça qui, si je dois avoir une petite réserve, c'est, comment il fait face à un vestiaire?
En fait,
il fait face humainement? C'est un mec, de par son éducation et tout, qui est pas dans le conflit.
Exactement.
C'est un mec un peu timide, je sais pas si c'est le mot, mais un peu effacé, et qui a peut-être du mal à regarder un mec et à lui dire j'ai pris cette décision là.
Par exemple, avec Balotelli, si Balotelli reste, par exemple.
Ouais, ça va être compliqué, là.
Bah, en fait, si tu veux, c'est ce que disait son prof quand il était au centre de formation de Leeds Hall. Il expliquait que c'était un ovni. Et ce que je pense, par rapport à ce que tu dis, il doit, parce qu'il vient d'un sérail totalement différent, parce qu'il vient d'un milieu très bourgeois, et pas du tout, justement, footballistique, il a un complexe.
Ouais.
Il ne se croit pas à sa place.
Je peux comprendre.
Il ne se croit pas à sa place, donc il a peur du conflit, il a peur du contact, il a peur vraiment de rentrer dans le joueur, de leur imposer des choses, parce qu'il a peur qu'on lui dise, mais de quel droit tu me le dis, tu ne sais pas ce que c'est. Il n'a jamais joué, il n'a jamais été joueur, il ne vient pas d'un milieu justement très...
Il a quand même une Coupe d'Europe.
Bien sûr que oui, bien évidemment,
bagage,
mais au fond de lui, on le dit, il n'aime pas les conflits. Il n'aime pas les conflits, c'est sûr que le cas Balotelli serait très compliqué.
Et là, il a un avantage cette fois, c'est qu'il vient avec un mec qui a un CV de dingo. Il vient avec Ricardo Carvalho.
Voilà, qui sera dans son staff.
Et là, lui, d'abord, c'est pas un mec à s'écraser devant un vestiaire et devant un joueur, s'il faut dire un truc, hein. Mais avoir comme second un mec qui a une aussi forte personnalité, et qui justement peut dans un vestiaire en imposer, physiquement et de par la personnalité, je pense que ça peut être un vrai atout pour lui, ça.
Alors, Jérôme, quand t'entends tout ça, là, le tableau qui est fait, quand tu connais Villas-Boas, est-ce que tu te dis que ça va marcher?
On a le droit d'être sceptique dans tous les cas, de toute façon. Après, c'est pas parce qu'on est sceptique
t'as
au départ.
Comme entraîneur, pas joueur de foot et un peu dans le genre comme ça, c'est Alain Perrin.
Ouais.
C'est un peu ce profil-là.
Ouais, sauf qu'il avait.
Il a dit contre Alain Perrin.
Non, mais Alain avait une personnalité bien trempée quand même. Lui.
Il paraît qu'il avait également un petit peu du mal dans le rapport humain parce qu'il
beaucoup trop dans le conflit. Beaucoup trop dans le conflit.
Peut-être qu'il voulait en imposer un peu de cette manière. Il paraît qu'il chambrait beaucoup et que certains joueurs le vivaient pas super bien.
Ouais, il y avait du chambrage, mais il y avait surtout le fait qu'il voulait être le boss dans le vestiaire, et peut-être aussi comme Village Boas.
Justement pour compenser le fait qu'il n'ait pas été joueur. Ouais.
Donc c'est possible. Dans la façon, il y avait aussi du chambrage de l'autre côté, parce que c'est vrai que quand tu démontres des exercices que tu veux mettre en place, le problème c'est que techniquement il est pas capable. Donc là, dans ces cas-là, en effet, un adjoint, ça peut être intéressant pour démontrer des choses. Quand tu l'as pas ou que tu laisses trop de côté tes adjoints, c'est problématique pour mettre en place des choses. Ça c'est sûr.
C'est bien de s'entourer comme il l'a fait.
Ouais, c'est vrai qu'il arrive
avec un méga staff.
Mais mine de rien, après, moi, on peut être sceptique, mais il faut laisser la chose. C'est quand même un entraîneur. Daniel le disait, c'est un entraîneur qui est arrivé. Alors oui, à Porto, on va te dire oui, il profitait de la suite qui avait été mise en place par des grands entraîneurs aussi. Mais bon, tu gagnes pas 4 titres en un an comme ça par hasard. Ça veut dire que
il a fréquenté des gros vestiaires, même si ça a pas toujours marché. Le fait d'être allé à Chelsea, d'avoir vu comment la mécanique fonctionnait à Tottenham ensuite, même au Zénith, à l'échelle du Zénith, c'est le club phare phares du championnat russe avec des vedettes dedans. Ça, il a côtoyé quand même. Il a quand même côtoyé des grands joueurs.
Il a gagné, et c'est pour ça que ça serait dégueulasse de le juger sur ses perfs à Chelsea et à Tottenham, parce que Chelsea, oui, en effet, il découvre là un vestiaire où il y a des stars. Il a eu du mal. Dans le rapport, et William,
si on arrive
à l'avoir, il expliquera mieux que moi.
Tu sais qu'il est quand même de l'année où il se fait virer en cours de route et Chelsea gagne la championnat derrière. Avec Di Matteo.
Donc ça veut bien dire que dans ces vestiaires-là, dans les vestiaires où il y a des égos très forts et surtout du talent, le joueur décide aussi beaucoup.
Il doit créer cette relation avec le vestiaire.
Mais à Marseille, c'est autre chose qu'il aura à mettre en place, parce qu'il y a moins de stars qu'à Chelsea. Tottenham, juste pour finir sur Tottenham aussi, c'est aussi dégueulasse parce que Tottenham, rappelle-toi à l'époque, c'est pas le Tottenham d'aujourd'hui. Le travail de Mauricio Pochettino, quand il est arrivé, il est parti de bas, il a réussi, on lui a laissé le temps, peut-être que lui on lui a pas laissé assez de temps aussi. Donc après, est-ce que c'est un entraîneur? Moi aussi, là-dessus, on peut être sceptique sur le fait de qu'on voit son palmarès et le temps qu'il a fait dans les clubs. Est-ce que c'est un entraîneur où tu peux t'appuyer sur un vrai projet, sur longue durée, sur 3-4 ans? Marseille a besoin de ça aujourd'hui.
Il a signé 2 ans.
Ouais, mais bon,
il a 350 000 euros bruts par mois.
De toute façon, c'est pas un problème financier. Là.
Non, mais là pour lui, la première mission.
C'est une info, ça? Parce que moi, j'ai eu 600 000 bruts, donc 350 000 nets.
La mission de l'OM, au-delà du nouvel entraîneur, c'est d'abord les pouvoirs retrouvés pour Zubizarreta. Ça veut dire probablement mettre dans l'effectif, grâce à ses réseaux et à ceux de Villas-Boas, qui quand même doit avoir des relations encore au Portugal, peut-être 3-4 jeunes espagnols ou portugais. Après, il y a ce vestiaire. Savoir s'ils vont pouvoir faire partir des têtes d'affiche en fin de parcours.
S'ils partent pas les relancer.
Qui va pouvoir relancer et comment? Ça va être ça d'abord. Après, que sa méthode, ils la mettent en place avec Carvalho, tous les adjoints, le côté scientifique, parce que là, ils arrivent vraiment avec grosse artillerie, très professionnel. Ça va faire du bien à l'OM, ça d'ailleurs. Lui a envie de s'imposer. Les joueurs sont dans un sentiment de revanche, donc je pense qu'ils vont être... ils vont écouter. Il va pas y avoir de problème, je pense, dans la première saison. Un match par semaine, je pense que tout le monde va être mobilisé. À mon avis, ça ne peut que fonctionner. Mais le problème de l'OM, ça a toujours été de ne pas anticiper d'une saison à l'autre. À chaque fois, c'est des cassures. Repart, on fait une bonne année, cassure. On repart. Là, il faudrait justement que il s'installe. moi je doute pas que ça marche rapidement parce que les circonstances sont favorables, mais il y a tous ces joueurs à faire partir pour faire arriver des jeunes joueurs que lui, son réseau et celui de Zubizarreta vont pouvoir faire venir.
Samir, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Salut Samir.
Samir, t'as entendu plein de choses là sur Villas-Boas, j'imagine que t'as appris des trucs.
Oui, j'ai appris des choses, il y a des certaines choses que je savais, et après moi je suis un peu, on va dire, je suis un peu négligé, déjà par rapport à son avenir.
Un peu rassuré pour le Vicomte.
Bon, ça fait quand même 2 ans et demi qu'il a pas annoncé.
Ouais.
Ses dernières expériences professionnelles n'ont pas connu un franc succès, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Et après, il arrive dans quelles conditions? Est-ce qu'il arrive avec l'effectif actuel ou est-ce qu'on lui a promis d'autres recrues? Parce que c'est bien de faire signer un nom après le départ de Garcia, et ça, c'est un super coup de communication, je trouve. Mais après, derrière, il y a quoi?
Oui, toi, t'attends le mercato pour être assuré. Non,
mais
en fait.
Moi, je pense. Mercato,
exactement, parce qu'on sait qu'à Marseille, ça monte très vite, mais ça descend aussi très, très vite.
Donc, Jérôme, tu veux répondre à Samir?
Ouais, parce que Samir, c'est sûr qu'on peut se poser la question avec cet effectif-là, si McCourt ne met pas la main à la poche pour recruter, ou pour se séparer de certains joueurs qui ont des contrats mirobolants, et à mon avis qui sont en fin de cycle, le fait que lui accepte ce challenge-là, ça fait 2 ans, tu l'as dit, qu'il a pas entraîné, il vient pas, pour le côté financier, parce que bon, ça, financièrement, je pense qu'il est tranquille avec ce qu'il a pris en Chine. Rien qu'en Chine, déjà, ça va très bien. La famille, comme tu nous disais, là-dessus, c'est donc il vient vraiment avec un challenge intéressant. Lui, il a envie de se relancer aussi en Europe et de montrer qu'il est capable dans un championnat majeur de faire des bonnes choses.
Assez excitant.
Donc à mon avis, c'est rassurant pour les supporters de l'OM.
C'est effectivement excitant.
Ce qui est apprécié, c'est que les 2 ans d'inactivité, c'est un choix. C'est pas une contrainte. Non, c'est pas parce qu'il a pris proposition.
Pour ça,
qu'il a choisi de faire le rallye. Enfin, le Paris-Dakar, pardon, de voyager, de voir sa famille. Il avait reçu des propositions, mais à chaque fois, il les a refusées. Et Marseille, là, il a fait le forcing, il a accepté. Mais 2 ans d'inactivité, c'est un choix.
Samir, merci. T'as entendu, en plus, il a fait le Paris-Dakar, le mec. Alors là, ça lui fait un peu comme avec John.
C'est un aventurier.
Après, il faut voir qu'est-ce qu'on lui a appris. Mais bon, comme vous dites, c'est un challenge pour lui, mais aussi pour le club. Parce que là, le club s'est complètement vautré dans son projet. Là, ils ont relancé, on va dire, avec l'arrivée d'un gros entraîneur. Maintenant, moi, j'attends les recrues potentielles qui vont arriver.
Merci, Samir.
Allô.
Salut, Samir. Je t'entends plus, ça coupe. Bon, ben, rappelle quand tu veux. Hein. T'es le bienvenu, tu le sais, dans l'after. C'est fini au basket, Jordan, entre Nanterre et Pau.
Large victoire de Nanterre, 84 à 69. Les hommes de Pascal Donadio qui valident donc leur ticket pour les demi-finales. Ils affronteront l'Asvel, ce sera dimanche soir à Villeurbanne.
Merci. Le barrage entre Le Mans et le Gazélec, où en est-on, Angie?
86e minute de jeu, toujours 2-1 pour le Gazélec d'Ajaccio dans un match qui faiblit et des manceaux qui n'arrivent pas à réagir pour l'instant. Il reste 5 minutes à jouer.
Pierre, merci beaucoup.
Merci.
On retrouve tes infos sur rmcsport.fr, sur Villas-Boas. Dans quelques instants, les Inyo ont pris le pouvoir. Juninho, Silvinho, ça a été une belle conférence de presse à Lyon cet après-midi. On en parle dans quelques instants avec vous au 32-16.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten également. On va parler de Lyon tout de suite. Juninho is back. Il a parlé aujourd'hui, Juninho, bien sûr. On va l'entendre dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur le barrage. C'est bientôt fini entre Le Mans et le Gazélec. Angie Wata.
Ouais, 90e minute de jeu, toujours 2-1 pour le Gazélec d'Ajaccio. Il y aura 3 minutes de temps additionnel, mais on a du mal à imaginer les Manceaux qui sont très émoussés en cette fin de match revenir au score. 2-1 pour le Gazélec. Il reste 3 minutes de jeu.
Émoussé, c'est un terme qu'on emploie que dans le foot, que les commentateurs de foot emploient.
Ça, émoussé, c'est quoi ça? C'est ok, t'es émoussé. Fatigué, mais émoussé, c'est.
Fatigué, t'es crevé. Ouais,
mais comment on imagine le mec émoussé?
Je sais pas.
Il a plus de mousse en lui.
Moi, franchement, en étant sur le terrain, dire ouais, t'es émoussé.
Vous êtes
regardé le coach, j'aurais dit tu te fous de moi, quoi.
Je suis content d'avoir lancé un débat.
À côté de toi, il est fatigué.
Et surtout, faut que t'arrêtes d'utiliser ce mot.
Genre, t'es émoussé.
Attends, tu m'as dit que guichet fermé, c'était trop vieux tout à l'heure. Émoussé, je tente.
C'est toi qui l'as dit.
Guichet fermé, à la limite, ok. Ça veut dire qu'on vend plus. Ça rappelle l'époque où on vendait les places au stade. Et voilà, tu allais t'acheter ton ticket.
Non, mais attendez, je l'ai.
Ça avait été acheté avant, mais
émoussé, ça vient du couteau, messieurs.
Hein?
Ça vient du couteau. Un couteau est émoussé quand la lame est émoussée. Et donc les joueurs sont comme des couteaux émoussés, ils ne sont plus tranchants.
Ah, joli.
Ah, voilà. Ouais, c'est mieux. Mais enfin bon, ça s'emploie pas non plus.
Ah bien, non, mais écoute,
ouais, ça va,
t'as validé ton
équipe. Bravo. Tu t'es rattrapé. À tout à l'heure. Avant de parler, de rentrer dans le dur du contenu de Juninho et Silvinho, petite séquence LV1, LV2. parce qu'on s'est quand même aussi marré cet après-midi. Écoutez d'abord Silvinho qui essaye. La grande mode, c'est quand tu arrives dans un championnat, tu veux parler la langue du pays. On a parlé d'Emery hier. Et ben Silvinho aussi s'est lancé. On écoute.
Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour très heureux pour moi. Désolé, je n'ai parlé pas français, mais vais étudier.
Voilà, mais je vais étudier. Et là, Jean-Michel Aulas, il s'est dit, attends. Aulas, il s'est dit, attends, lui, il parle français, mais moi, je parle anglais. Et pam, Jean-Michel Aulas se lance, il pose une question à Silvinho, écoutez.
Welcome, Silvinho. Are you okay? And are you happy to be here?
Et il aurait pu le faire en brésilien.
C'est génial.
Il aurait pu apprendre la phrase au portugais.
Et là, comme dans l'after, on a toutes les archives, on s'est dit, attends, il s'était passé un truc il y a quelques années. Rappelez-vous.
I am very happy.
Ouais, ça vient de là.
In the big club Tottenham.
Voilà.
C'était juste après c'était Lyon, en plus. Bah non, c'était après l'équipe de France.
Ah oui, c'était après l'équipe de France.
Après l'équipe de France. Donc voilà. Bon, c'était la petite séquence marrante, LV1, LV2. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Vous avez
Are you okay?
Are you?
Là, c'est même pas LV1, LV2, excuse-moi.
LV4, LV5.
Ah oui.
Même pas, tu sais que maintenant il commence l'anglais en primaire. C'est niveau CP, là.
Non, mais Jacques, il avait fait, Jaco, il avait fait allemand, espagnol.
Ouais, même pas.
Ah ouais, non, même pas, ouais.
Bon, en tout cas. Juninho a dit plein de choses, très intéressantes. Moi, j'ai commencé à regarder et franchement, j'ai été complètement capté par ce qu'il raconte.
Juninho, c'est un maître.
Brillant.
Et extraordinaire.
Voilà.
On le savait, hein. On a parlé avec lui, machin.
Bah, il a bossé avec nous, Juninho. Alors, pas dans l'after, mais à l'époque, dans Louis s'attaque. Et très franchement, il nous régalait de ses analyses et tout.
Non, il est fantastique, vraiment.
Et donc, il explique, voilà. En fait, ce qui a fait la différence pour qu'il vienne, c'est que Aulas lui a dit, voilà, tu vas pouvoir choisir l'entraîneur. Et là, il s'est dit, ah! Pour moi, c'était le déclic. Je me suis dit, s'il me laisse faire ça, là, je peux y aller. Ça veut dire que je vais avoir.
Ça veut dire que je vais bosser, quoi.
Ça veut dire que je vais avoir les coups des franges pour bosser. Et il arrive en plus avec un message. Tu vois, il dit, voilà, moi, faut pas croire que je vais arriver avec mon aura d'ancien joueur. Enfin, je repars 2-0 avec tout le monde parce que c'est pas le même métier, etc., etc. Enfin, moi, Juninho, moi je l'ai trouvé brillant, je sais pas ce que vous en avez pensé.
Oui, mais de toute façon, quand tu cumules l'expérience des deux là, en termes de haut niveau, bon bah voilà, c'est des gars qui ont fréquenté des, à la limite même plus Silvinho les gros vestiaires que Juninho, mais Juninho c'était un joueur fantastique, grand professionnel, mec intelligent, qui comprend le foot, l'exigence du haut niveau. Moi quand je les vois là comme ça tous les deux, je me dis que Lyon a. Écoute, je pense même qu'ils sont dans un stade là au niveau du professionnalisme, même qu'ils n'ont jamais eu, même à leur grande période, parce que leur grande période, c'était un Aulas ultra dominant, qui avait les sous pour faire des bons recrutements, qui mettait des coachs, qui étaient des coachs qu'il dominait lui-même. L'emprise managériale, c'est lui qui l'avait. Donc l'équipe tournait parce que de toute façon, ce qu'il avait mis en place faisait que tout tournait bien. Mais c'était les coachs maison, c'était les coachs à lui, c'était sa petite tambouille. Là, il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus avec ces deux-là. Quand je les vois, je pense là que Lyon est en train de franchir un cap très intéressant, très important surtout. Moi, quand je vois Juninho parler Silvinho, je me dis que quand au mois d'août la saison va reprendre, c'est pas deux gars. Ces deux-là qui vont venir te dire bon ben le PSG est très fort.
Non, il a déjà commencé cet après-midi, Juninho.
Attends, mais nous on va, je pense pas que ces deux-là.
Il ne peut pas dire ça justement.
Ouais.
Il a dit l'inverse.
Donc ce sont pas des mecs qui vont commencer par être résignés.
Il a dit il faut se mettre dans l'état d'esprit. De concurrencer Paris.
Mais voilà. Et ça on l'avait pas entendu ces dernières années. C'est pour ça que je dis ces gars-là n'ont pas la tronche, n'ont pas la tête de mecs qui vont justement baisser la tête ou ne pas regarder les autres en face. Ils vont y aller et ça va être fantastique, vraiment j'en suis sûr.
Ce qui est sûr, c'est que sur les dernières, moi je vais pas remonter plus loin comme Daniel le fait parce qu'il faut pas retirer non plus la domination lyonnaise.
Bah, rien du tout.
Non, hein, tu dis surtout que c'est dû à un Aulas qui avait un rôle.
Bah, Aulas était dominant. C'était lui qui gérait tout.
Oui, non mais il gérait pas un vestiaire.
Ouais, quand il y avait des crises, c'est lui qui gérait. Avec Juninho d'ailleurs. Oui, avec Juninho qui était son capitaine.
Eh ben oui. Juninho était là. Il y avait des joueurs, mais t'as vu les joueurs qu'il y avait.
Mais c'est rare, mais les entraîneurs étaient
mais les entraîneurs ils faisaient le recrutement, Daniel, ils faisaient le recrutement avec avec leurs adjoints, avec leur staff. C'est pas Olas qui faisait le recrutement. Il a créé quelque chose de fantastique au début des années 2000.
Un rôle primordial.
Écoute, moi c'est la période où j'étais sur le terrain, on les rencontrait souvent, surtout on était à la bagarre avec Monaco. Je peux te dire que dans le vestiaire, les entraîneurs qu'il y avait, que ça soit Santini, que ça soit Houillet, que ça soit Le Guen,
Les autres, pour moi, c'est pas de la carrure. Mais les autres, ça a pas.
Écoute,
d'ailleurs, leur histoire perso entraîneurs.
Non, mais on est d'accord
que c'était pas que soit Santini, Perrin, Le Guen.
Oui, mais c'est des entraîneurs.
Puel, dans une certaine mesure, c'est pas des entraîneurs top club de haut niveau.
Oui, peut-être.
Houillet, il a fait Liverpool, il a participé à la reconstruction de ce club. La seule fois où Lyon a eu de la dimension internationale, c'est la période Houillet. Le reste, c'était les clés dans la poche d'Olas. Il y a un problème, vous venez dans le bureau. En plus, il nous l'a raconté.
Non, mais d'accord.
Il prenait les mecs dans le bureau.
Mais je suis d'accord.
Et
c'est pour ça.
Là, on va passer à
autre chose. C'est pour ça qu'il y avait un autre rôle.
Exactement.
Il avait un autre rôle avec des entraîneurs qui étaient les entraîneurs qu'il fallait à l'époque pour gagner. Et Lyon était sur le devant de la scène.
Les entraîneurs, c'était les chauffeurs de bus à l'époque.
Et en Coupe d'Europe, avait une équipe qui pouvait rivaliser avec les meilleurs. Même s'ils n'ont jamais fait finale Champions League ou finale d'Europa League, mais quand même.
Mais il y a eu penalty sur Nilmar.
Il y a eu des bonnes époques.
Ouais, ils auraient pas gagné la Ligue des Champions.
Le problème, c'est qu'il s'est trompé et à travers ce choix. Et moi, je suis content qu'ils fassent ce choix-là et qu'ils prennent des risques. Et même si c'est des gros risques quand t'as deux personnes comme ça qui découvrent leur rôle, un numéro un et l'autre directeur sportif.
Ouais, mais ils découvrent pas le très haut niveau. Ils le connaissent le
très
haut niveau.
Non, mais exactement. Oui, mais sauf que c'est un rôle.
Sylvinho, il a bossé avec des cracks.
Oui. Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que Juninho, il va découvrir les aléas de son rôle. Après, attention, s'il a les moyens.
Mais Juninho, il fait penser à Leonardo finalement.
Ouais,
Leonardo,
mais c'est bien.
Leonardo, il avait connu les clubs, le très haut niveau, il avait vu ça de près. Après, quand il a commencé à se dire, tiens, je vais être dirigeant, je vais être ceci, cela, il avait pas une grosse expérience, Leonardo. Mm. Mais il en imposait par sa connaissance du foot, du milieu, par son intelligence. Ouais. Parce qu'il a toujours été au-dessus. Et Juninho fait vraiment penser à Leonardo.
Parce que un mec
ferme, qui a les idées claires, qui peut, quand il parle, tu l'écoutes.
Je suis d'accord.
Moi, je trouve qu'il se ressemble.
Maintenant, il y a le discours.
Je vois pas de Juninho.
Il y a le discours.
Juninho, je le vois pas aller bousculer un mec dans un couloir.
Mais écoute, dans l'énervement, ça peut arriver.
De toute façon, on va pas juger un mec
parce qu'il a bousculé un mec et tout. Oh, tu sais pas la frustration, tout ce que peut amener la compétition. Bon, ça, peu importe. Mais moi, après, il y a le discours et c'est bien d'avoir ce discours-là parce que moi aussi, j'ai écouté attentivement leur conf de presse, surtout Juninho quand il parle. Tu sens qu'il est heureux de venir dans un club où il a tellement apporté à ce club que ça va lui faire plaisir de essayer de refaire passer un cap à l'Olympique Lyonnais, de devenir, et c'est ça qui me plaît dans son discours, de devenir déjà important en France avant de penser à la scène européenne. Et c'est vrai, ils sont bien bien trop loin de Paris, mais ça fait des années qu'on le dit. Et que à travers ce choix, juste pour finir, Olas, il montre que c'est bien, il a pris des risques, mais il a perdu trop de temps à se cacher derrière l'écho de son club, l'économie de son club, son stade. Voilà, là maintenant c'est allez, on fait table rase de tout et on avance.
Dans quelques instants, parce que Sylvinho a donné les bases de ce qu'il veut faire. Et c'est déjà chaud pour certains joueurs qui rentrent pas forcément dans le cadre.
Oui, ça c'est sûr.
Des Igno.
Oui, j'ai l'impression que les gars ont dit des choses qu'on disait depuis pas mal de temps dans l'after. Mais bon, eux, maintenant, ils le disent, ils sont légitimes. Mais
c'est
on l'était.
Tout de suite.
On l'était.
Supporters lyonnais, vous attend au 32-16 pour réagir et vous entendrez tout ça dans quelques secondes. Bien sûr, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jean Bretagne, Daniel Riolo, on parle de Lyon. On va accueillir David dans quelques instants, les supporters lyonnais, mais donc le reste des infos. Sylvinho dit, moi c'est simple, mon système c'est 4-3-3. Voilà, donc il veut jouer en 4-3-3, il annonce la couleur. Donc il veut des joueurs pour son 4-3-3. Donc d'ores et déjà on a fixé les objectifs de Mercato. Défense centrale et milieu défensif. Et d'ores et déjà...
Il lui faut du costaud devant la défense pour le 4-3-3.
D'ores et déjà, c'est chaud pour le dénommé Luka Tuzar, le pauvre. Écoutez ce que dit ce qu'en dit Juninho de Luka Tuzar.
On a Lucas Tuzar qui joue devant la défense, mais... On a besoin de notre profil. devant la défense parce que le coach lui va parler et son système de préférence c'est le 4-3-3. Comme je dis, on a un profil de Lucas Toussard qui c'est plutôt un profil physique et costaud, mais on a besoin que ces joueurs-là devant la défense c'est quelqu'un qui aime le ballon et qui fasse jouer son équipe parce que nous sommes une équipe qui arrive à dominer les adversaires, mais que bon comme je dis après on manque un peu d'agressivité.
Et ouais, quand pendant des années je disais que c'était pas un joueur pour Lyon et que les supporters de l'OL le prenaient mal et m'insultaient, il disait mais non Lucas Toussard il est formidable. Non, c'est un super mec, adorable, gentil, c'est vraiment un type qui est, c'est dur, franchement, c'est vraiment le genre de mec que j'aime pas critiquer. Parce que c'est un gars sur le terrain, il donne tout, il est adorable et tout ça.
Il dit, on a Lucas Toussard, mais on a besoin d'un gars qui aime le ballon.
mais la réalité est celle qu'on décrit depuis des années sur ce joueur.
De toute façon, après, c'était plus un titulaire, hein, sur la deuxième partie.
Oui,
en plus. Au d'un moment, il a joué avec Aouar et Ndombele devant la défense, Genesio, donc c'est aussi.
Je suis curieux de voir comment ils vont orienter leur recrutement. Et surtout 4-3-3, ce qu'ils vont faire de Fekir.
Non mais
pas adapté à ce système.
Mais non mais Daniel, c'est très clair. Donc quand tu veux jouer en 4-3-3, ça veut dire que Fekir tu t'en passes. Et tu peux pas jouer avec Fekir sur un côté, on l'a vu.
Donc, il faut qu'il le vende.
Donc ah bah oui, je pense de toute façon moi c'est ce qu'on disait c'est quand que j'ai fait l'after la semaine dernière. Où moi je mettais en avant le fait que Fekir c'était le moment de le vendre. Je savais pas le système préférentiel de Silvinho. Là ça c'est très clair.
Non mais
clair.
Je pense qu'ils vont s'en séparer. Ils savent que c'est pas un mec fait pour ce profil-là.
Mais ce qui est c'est bien et pas bien. En fait le discours de Juninho, bien sûr qu'il est clair et tout ça. Après j'espère juste que quand il tient ce discours-là sur Toussard, à un moment il faut aussi respecter les joueurs qui sont en place. Que Toussard était au courant de ce discours-là, parce que si Toussard, sans avoir dialogué avec Juninho, il apprend ça, mais écoute, fais tes valises direct, vide ton casier, et tu te casses.
C'est un peu non, ce qui va se passer. Hein.
Oui, mais
comme pour Fekir, de toute façon, il veut se barrer, et les mecs ont bien l'air de dire qu'il va pas être dans le schéma. Bah Fekir, il faut trouver un club qui le veut, et puis au revoir. Hein.
Mais en effet, le recrutement va être intéressant parce que c'est là qu'on va vraiment le juger, en fait. Parce que des idées, c'est très bien.
Alors, il y a un autre cas particulier, les gars, c'est Depay. Depay donne une interview aujourd'hui où, bon, alors là, ça a fait polémique à Lyon parce que...
Il a envoyé, là.
Alors, je reprends.
Et Depay, à mon avis, Juninho...
Il dit...
Se dit, lui, on va le cadrer, on va en faire un truc.
Depay dit, je place la barre haut dans tout ce que je fais. C'est pourquoi cette année, j'ai été contrarié par la façon dont les gens s'entraînaient. Pas parce que les joueurs sont pas bons, mais parce que la mentalité n'était pas bonne. Il dit, quand on est en sélection nationale néerlandaise, on est à fond, c'est le plus haut niveau possible. C'est pas toujours le cas à Lyon, dit Depay. Écoutez la réponse de Juninho.
Par rapport à son talent, j'ai pas de doute. J'aime beaucoup. C'est un joueur qui marque des buts, qui fait des passes décisives. C'est une star qui est, je pense qu'il est encore une marge de progression. Et c'est un joueur important pour nous. On discutera personnellement et devant le groupe par rapport à ça. J'aimerais bien qu'il soit là. J'aimerais bien qu'il soit très motivé. J'espère qu'il fera encore une meilleure saison avec nous. Et j'espère lui aider aussi à être plus performant et plus concentré sur toute la saison.
Voilà.
Bon, Depay, encore un qui parle de la mentalité dans les vestiaires de Ligue 1, quoi. Même si lui est
pas,
il est pas exempt pour reproche.
Est-ce que j'ai dit qu'il était exempt pour reproche?
Non, mais.
La vision quand c'est Depay qui la ramène.
C'est facile de dire la mentalité.
Il n'empêche que, même s'il n'est pas exempt de tout reproche, ça n'enlève pas la véracité de son propos. Propos qu'on entend. C'est toujours la même chose. Enfin, c'est un propos, on le connaît par cœur. Nous, ça fait des années qu'on en parle, mais là, plus ça va, plus les joueurs se lâchent et le disent.
Mais tu veux que je te dise, dans le championnat de France, le problème de ces joueurs-là, qui découvrent donc le championnat de France, qui était à l'étranger avant, ils nous parlent de la sélection néerlandaise, comme une sélection, une des meilleures. Il faut se souvenir où étaient les Néerlandais il y a quelques mois, hein, seulement. Je parle pas des derniers matchs des Pays-Bas. Bon, ils avaient pas une grande génération, les dernières grandes compétition, on les a pas vus. Donc aussi l'exigence, moi je veux bien qu'ils nous parlent et qu'ils nous parlent des Pays-Bas et d'autre part pour parler du championnat de France que je connais bien, encore une fois, en effet, je le rejoins sur le fait que les joueurs s'endorment, ont pas plus envie de bosser que ça, et que ça vient, c'est en fait c'est aux joueurs
aux joueurs phares, aux joueurs leaders, de montrer l'exemple.
En fait, c'est une sorte de routine.
Voilà. Non, mais c'est ça.
On dort dans une routine de non-exigence.
Mais ça,
comme on le dit depuis des années.
Rejoins. Je l'ai connu. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Pour éviter cette fameuse routine que les joueurs s'endorment. Eh ben, c'est les joueurs phares qui doivent montrer l'exemple, qui doivent en faire plus à l'entraînement, les entraînements physiques, les entraînements, l'entraînement caché là, tu vois, la récupération, les
bien
trucs.
Sûr,
c'est
sûr.
À eux. Sauf que Depay, qu'est-ce qu'il fait? C'est une les jeunes à Lyon quand ils montent, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent. Mais Depay, comment ils s'entraînent? Qu'est-ce qu'il fait? Franchement, vu la saison de Depay, il devait pas être
exempt de tout reproche. Et lui, Depay, il dit qu'il était pas exempt de tout reproche et qu'il en faisait pas assez parce qu'il était pris
sauf
dans
que
le truc.
C'est l'inverse. Il est aujourd'hui, il a un statut. Et encore, Juninho, il le dit, c'est une star, c'est un joueur sur lequel.
Depay était pas attention, Depay était pas vraiment parce que à Lyon, il y a toujours ceux qui sont de la maison qui sont les stars.
Oui.
Attends, c'est
Fekir la star.
C'est eux qui tenaient un peu le truc.
Mais quand il est arrivé, rappelle-toi le discours de là.
C'est les Lyonnais, quand les boss.
Oui, non, mais d'accord. Là-dessus, oui. Mais quand il est allé chercher Depay, qu'est-ce que Aulas nous a dit? Je suis allé chercher une star.
Bien sûr.
Eh oui, il te l'a présenté comme ça. Quand il te prend Raphaël à Manchester, il te dit je suis allé chercher un mec
qui doivent donner l'exemple, c'est les Lyonnais parce que c'est eux qui étaient les vedettes, c'est Fekir, Lopez, c'est ces mecs-là, les anciens.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont j'aimerais qu'on accueille
David. Mais à Lyon, c'est souvent comme ça que ça marchait.
Salut David.
Bonsoir messieurs.
Salut David.
David,
salut.
Toi tu es ravi de cette conférence de presse du jour là hein, et donc de l'intronisation des
Lyonnais. Je sens les Lyonnais très excités.
Ah mais alors très excités pourquoi? Parce qu'on a enfin un discours d'entraîneur et de directeur sportif, et non pas un discours d'un président qui a pour moi plus rien à faire à être dans un vestiaire. On a enfin quelqu'un qui dit, moi ça va être comme ça et c'est pas autrement. Donc, quand ils vont commencer à parler à tous les joueurs, c'est soit les joueurs adhèrent au programme, soit tu dégages. Parce que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est de retrouver une équipe qu'on avait dans les années 2000, une équipe de rageux, une équipe qui ne lâchait pas le ballon, qui ne lâchait pas la pression sur l'adversaire de la première à la dernière minute. Quand les entraînements vont recommencer, il y en a, ils vont avoir les poumons qui vont cramer et les cuisses qui vont piquer.
Bon, et ça, c'est
bien. Il va y avoir un travail physique énorme qui va être fait et un travail de ballon qui va être fait, un vrai travail de ballon.
David,
ils choisissent leur match, ça il y en aura plus.
David, j'ai une question. T'es de Lyon, toi?
Oui.
T'es allé les voir à l'entraînement l'année dernière, ces derniers
mois? J'ai pas besoin d'aller les voir.
Non, mais je te pose.
J'ai pas besoin d'aller les voir à l'entraînement. Mais je les vois simplement en match.
Non, mais
moi ça me suffit.
Non, mais parce
moi,
que
moi ça me suffit.
Non, mais d'accord, mais je te comprends. Ben nous aussi. Mais après, la personne ou les supporters et ça arrive, il y en a beaucoup vont les voir à l'entraînement et constatent en effet qu'il y a un manque d'effort, un manque de répétition du geste et même de travail physique. Moi, j'aimerais bien avoir un auditeur qui nous dit, voilà, moi, je suis allé.
Moi, j'ai vu les entraînements à Duvergne. Je les ai vus. Bah, j'aurais pas voulu l'avoir en préparateur physique, Duvergne.
Je te confirme.
Parce que les mecs qui crachaient les poumons, c'était l'époque.
À l'entraînement. N'empêche qu'au niveau des matchs, ça tenait la maison, hein.
Si c'est le cas,
clôture le dossier
si c'est
lyonnais.
Le cas en effet que en plus de ça la préparation physique n'était pas adéquate et que les joueurs s'endormaient même après des mauvaises perfs, là il y a de quoi se poser des questions.
David, merci
et
en tout cas.
On a ouvert la filière brésilienne et ça va faire du bien aussi.
Exactement, c'est réactivé plus que jamais. Salut David, merci.
Allez, bonne soirée, messieurs.
Bonne soirée, bientôt dans l'after.
Les bons joueurs, maintenant, Lyon a un peu de retard sur le marché des joueurs. Parce que d'autres... Bon, vas-y, ok, c'est bon.
Dans quelques instants, on est de retour.
Je respecte le coup.
Ribéry au programme.
Ce qui lui arrive.
Bah non, mais bien, il est de bonne composition, il est parfait.
Ça va pas durer, ça.
Je pense qu'il est fatigué.
Ribéry au programme, plus le FC Nantes. Il y a encore plein d'autres choses d'ici minuit dans l'after. Bougez pas, on revient avec plein de surprises.
RMC, l'After Foot.